les enfants de Cronos.
Bonjour à tous. Donc Gilles Baudin, je suis président de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis et je vous parle de la découverte des arènes au XIXe siècle. Donc Félix Vernois, senlisien passionné, est persuadé d'avoir trouvé sur quelques indices d'archives la trace des arènes antiques de Senlis. Et il va sur le terrain. La parcelle au-dessus de la fontaine d'Arènes Tari était nommée « des fosses » ou « la trappe ». Cette désignation persuade Félix Vernois de louer au premier jour de 1865 le terrain qui est en labour et qui présente encore une dépression et d'employer à ses frais des ouvriers qui auront la chance de trouver le mur elliptique du podium. Le podium, c'est la première rangée de gradins. À vrai dire, il existait également, et il existe toujours, juste à côté de cette dépression, une petite élévation de terrain sur laquelle, lors du siège de Senlis en 1589, les Ligueurs avaient placé deux couleuvrines sur une haute butte à l'endroit de la fontaine des Reines, nous dit l'historien, pour battre le rempart de la ville et la brèche que les assaillants y avaient faite et ainsi empêcher les Senlisiens de tenter une sortie. On peut donc accorder des témoignages discordants qui voient, au XIXe siècle, donc tantôt un creux subsistant, tantôt un tel comblement de ce creux qu'une butte de déblai l'aurait remplacé. Je crois plutôt que les parties hautes de l'amphithéâtre écroulé n'avaient pas complètement disparu, si la cavea, c'est-à-dire le trou que forment les arènes, les gradins, n'était pas complètement nivelé non plus. On peut croire que Félix Vernois a vu dans ses accidents de terrain un endroit propice. Voici le récit de la découverte tel qu'il parut dans les mémoires de la société. Alors c'est au 19e, c'est en 1865, et forcément ça a le ton de l'expression du 19e. Le 1er février de cette année, un de ses membres, homme d'initiative et d'action, voulut qu'enfin nous eussions le cœur net de ce que le sol pouvait avoir gardé de construction aussi complètement disparue de la surface, mais dont la position, suffisamment indiquée par les chartes, ne pouvait être douteuse pour personne, dès qu'on se donnait la peine de considérer les lieux. Plein de confiance, M. Félix Vernois fit sonder le sol et dès les premiers coups de pioche, tuiles romaines, poteries anciennes, débris de construction, fibules, etc. se montrèrent en assez grand nombre pour faire concevoir de légitimes espérances. Il faut ajouter que Félix Vernois avait fait l'objet de quelques mépris et de moqueries dans sa recherche. Le lendemain de sa découverte, au conseil d'administration du comité archéologique, pendant le dépouillement d'un scrutin houleux sur l'avenir des collections d'objets antiques et de documents réunis par la société, Félix Vernois annonce modestement sa découverte. Pendant toute cette réunion, les membres se sont chamaillés sur des petites choses, en venant à critiquer la probité des institutions civiles, mairies, ministères, auxquelles certains des membres appartenaient. Le ton était monté. L'annonce insidieuse de Félix Vernois calme instantanément toutes les rancœurs et les acidités. Les membres sont enthousiastes et ils se rendent aussi vite que possible sur les lieux. On imagine ces messieurs en chapeau se rendant sur les lieux boueux ou verglacés, peut-être un temps comme aujourd'hui. Nous avons quelques photos de visites archéologiques de l'époque, mais pas des arènes. Le costume de ces messieurs n'était pas toujours adapté. Les fouilles sont aussitôt lancées, puits de sondage au cœur du site et dégagement de ce qui deviendra le vomitoire sud, c'est-à-dire l'accès, le couloir d'accès, et notamment ces murs parallèles qui présentent un moyen appareil caractéristique gallo-romain. La découverte d'une monnaie en argent de Philippe l'Arabe, 244-249 environ, stimule les ardeurs. 15 jours plus tard, le bureau du comité archéologique examine longuement trois questions. Y a-t-il lieu de continuer des fouilles? Quelles ressources consacrées à cet effet? Quels moyens convient-il d'adopter pour assurer l'emploi des fonds? Le comité archéologique s'engage sur ce qui sera sa grande affaire pendant 30 ans. 30 ans d'efforts et aussi 30 ans de cohésion. Il est constitué de personnes habituées à gérer les affaires. Il prend ainsi sans tarder les dispositions qui s'imposent. Il crée une première commission pour entamer les démarches administratives et financières indispensables à la poursuite des travaux. Cette commission est constituée de messieurs Victor Chartier, ancien notaire, maire de la ville, Casimir Vatin, vice-président, président honoraire du tribunal de Senlis, et Félix Vernois, l'inventeur. Une seconde commission prend la direction des travaux et on fait appel à des spécialistes. Messieurs Lucien Bernier, capitaine de cavalerie, Ernest Corby, qui habite alors au Fay, près de Saint-Yne, tout près d'ici, Norbert Drin, architecte, Stanislas Deveau, Jules Puissant, ingénieur, Vatin et Vernois déjà nommés, Louis et Henri Moinet, géomètres, il s'agit je pense du père et du fils. Puis, et aussi, les abbés Henri Blon, professeur de mathématiques, directeur de Saint-Vincent, et l'abbé Joseph Leglois, aussi professeur, archiviste du comité archéologique. D'autres membres se chargent de dresser des relevés et de lever des dessins des fouilles, dont Gérin, qui était élève de couture. Il apparaît bien vite que pour intéresser les pouvoirs publics, c'est-à-dire le ministère des Beaux-Arts, celui de l'Intérieur et de l'Instruction publique, aux fouilles, le comité doit acquérir le terrain. Et on se rapproche du propriétaire pour cet achat. Sur ces entrefaites, hélas, le décès du président fondateur Voilmier survient, mais ne décourage pas les membres du comité. Le comité fait des démarches pour être reconnu d'utilité publique, mais il est encore trop jeune pour les autorités et doit faire ses preuves. Il reçoit cependant 300 francs de subvention pour poursuivre les fouilles. En juillet 1865, le comité lance une souscription pour couvrir l'acquisition du terrain. Nous sommes à peine 6 mois après la découverte. La souscription est ouverte immédiatement par un tour de table. Elle recueille plus d'une centaine de personnes, les plus généreuses promettent 100 francs. Le jour même, 1205 francs ont été donnés. Un petit cahier, qui existe toujours, relié de soie, consigne les dons. Le député de l'Oise, Lemaire, a envoyé sa souscription personnelle par anticipation. Le 3 août, 2065 francs sont déjà réunis et 500 francs sont promis par des personnes extérieures au comité. Le propriétaire, M. Pellebois, propriétaire du terrain, lui est bien sévère mais non inexorable, c'est le terme employé dans les comptes rendus. On peut en effet penser que, voyant tous ces messieurs soudain intéressés à l'achat de son champ, le cultivateur se dit qu'il doit en receler quelques trésors et qu'il peut donc monnayer son terrain. En tout cas, il veut qu'on le remette en état si on ne lui achète pas. Le renoncement aux arènes et les frais de remise en état du terrain ne sont de toute façon pas envisageables par nos archéologues. À l'automne 1865, le terrain est acquis pour 4500 francs, dont 500 francs pour indemniser le fermier, le locataire, M. Margris, qui ne pourra donc plus exploiter son bail jusqu'à son terme. Le comité règle immédiatement la moitié de la somme et 100 francs d'intérêt. Il paiera le solde avec intérêt l'année suivante. Le notaire offre les frais de l'acte. Le comité dépense ensuite 423 francs pour clore son terrain. La clé est confiée au sieur de Guise. Il est aubergiste des environs, en fait place des Arènes, qui ne s'appelle pas encore la place des Arènes, et la clé lui est confiée pour accompagner les visiteurs le dimanche. L'auberge, qui prendra le nom d'auberge des Arènes, n'existe plus, mais le bâtiment, lui, existe toujours. On dépose à cette auberge, le 27 décembre 1866, un livre d'or des Arènes pour faire signer les visiteurs. Et il porte la dédicace d'André de Varu à M. de Vernois, inventeur des arènes. Ce livre existe toujours. 14 pages sont couvertes d'autographes, le dernier en date, juillet 1900. Et par exemple, le 4 juin et le 25 août 1867 sont ainsi immortalisés Giovanni Tamburini, chanteur lyrique, John O'Brien Inman, qui était né en 1828, qui est un Américain de New York, fils du peintre Henry Inman, élève de Thomas Couture, ou son compatriote Bulter de Californie, aussi élève de Thomas Couture. Et encore, Henri de Pontalba, alors résident à Ontonagon, au Michigan. On découvrira aussi les signatures du baron de Maricourt, des Anglais, des voyageurs, des représentants de commerce.